Je suis en compagnie de Maître Marc-André Houle, syndic autorisé en insolvabilité chez Houle-Huot. Bonjour Marc-André.
Bonjour Valérie.
Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche plus de monde qu'on pense, là, les fameuses dettes. Donc quand les dettes deviennent envahissantes, comment on fait pour reprendre le contrôle?
Bien, premièrement, il faut se rappeler qu'on n'est jamais seul dans ça. Il y a des gens qui peuvent nous appuyer. Quand les dettes commencent à miner le sommeil, puis à nous créer beaucoup d'angoisse, bien, ça peut avoir des impacts sur notre santé. Il faut se rappeler que la loi sur la faillite et l'insolvabilité, elle a des solutions à nous proposer. Les deux principales, bien, c'est la faillite personnelle, mais surtout la proposition de consommateur qui va permettre de régler les dettes.
OK. Et si d'abord, là, on parle de la faillite, peux-tu nous expliquer exactement qu'est-ce que ça implique, le fait de faire faillite?
Bien, la faillite, c'est une procédure légale, puis elle sert quand les dettes, on est vraiment dépassé, puis sont rendues trop lourdes pour les revenus qu'on génère. Donc, on n'est plus en mesure de faire des paiements. Elle va effacer la presque totalité des dettes, là, sauf celles qui sont précisé dans la loi là, des dettes non libérables, mais implique parfois la liquidation des biens. Donc, en principe, on délaisse nos biens. En échange, on est libéré de nos dettes. La durée d'un dossier, bien, ça va dépendre. Une première faillite, ça va en principe 9 mois ou 21 avec si on a du revenu excédentaire. Une deuxième faillite, ça peut durer 24 ou 36 mois, dépendamment si on a du revenu excédentaire ou pas.
Et là, tu nous parles de revenu excédentaire. C'est quoi exactement?
La loi prévoit, c'est un calcul qui est prévu dans la loi, c'est un peu comme si on avait une portion du revenu qui était saisissable. Donc, on compare le revenu de la personne avec ce que le gouvernement considère comme le coût de vie raisonnable. Puis si on dépasse, bien, il y a une portion qui doit être versée au syndic pour redistribuer à la masse des créanciers. Mmh.
Puis là, j'imagine que ça peut faire peur quand même, le mot faillite, avec tout ce que ça implique de ce que tu viens de m'expliquer.
Oui, c'est sûr, parce que en principe, c'est une cession volontaire, donc on délaisse nos biens. Mais c'est pour ça que la proposition de consommateur est rendue une solution qui est de beaucoup privilégiée, plus de 80% des dossiers en ce moment au Canada.
OK, donc explique-nous donc, c'est quoi justement cette fameuse proposition de consommateur-là?
Bien, la proposition, c'est une alternative à la faillite. Ce qu'on fait, c'est qu'on négocie avec les créanciers non garantis pour réduire ou étaler des dettes sur un maximum de 5 ans. On ne perd aucun bien tant que les paiements hypothécaires ou automobiles sont à jour. Donc, on ne vient pas affecter les droits des créanciers garantis, mais on n'a pas de bien à se débarrasser. Donc, c'est vraiment juste une entente qu'on prend avec les cartes de crédit, la marge de crédit, bref, tous les créanciers qu'on dit non garantis. C'est beaucoup plus souple puis c'est beaucoup moins dommageable pour la cote de crédit.
Puis là, tu nous parles d'un maximum de 5 ans. Est-ce qu'une personne pourrait rembourser plus vite, par exemple, si ça va mieux?
Oui, puis je veux dire, ça va venir aider à rebâtir le crédit plus vite si on le fait.
OK. C'est intéressant quand même. Il y a des différences là, entre les deux. C'est quoi les principales différences?
Bien, les principales différences, bien, c'est surtout, je peux nommer peut-être 4 points. Bien, les biens, donc en faillite, on va devoir liquider les biens non essentiels. En proposition, on va les conserver. La cote de crédit, c'est sûr qu'une proposition, ça va affecter le dossier de crédit moins longtemps. Puis c'est une cote de crédit R7, ça va être une mention de crédit R7, alors que la faillite, ça va être un R9 qui est la pire. Puis ça va durer 7 ans après la libération, jusqu'à 14 ans pour une deuxième faillite. Donc, ça reste beaucoup plus longtemps au dossier de crédit. La faillite est plus courte que la proposition de consommateur, mais la proposition de consommateur, elle va se terminer si on la paye avant. Donc, elle va se terminer avec le dernier paiement. Mm. Donc, ce qu'on peut pas faire avec une faillite. La faillite va durer le temps qui est prévu dans la loi.
Okay.
La proposition, c'est le délai qu'on va se donner pour faire les paiements, c'est vraiment à l'avantage du client seulement.
Puis est-ce qu'il y a des ressemblances? C'est quoi qui les unit, ces deux-là?
L'effet principal, c'est ce qu'on cherche, c'est une suspension des procédures. Donc, ça va venir terminer toutes les procédures de recouvrement. Les appels incessants, les agences de recouvrement qui nous appellent, on ne peut plus se faire poursuivre pour nos dettes, on n'a pas d'avocat à payer. Donc, dans les deux cas, il y a une suspension des procédures, puis ça termine le recouvrement des créanciers.
OK. Maintenant qu'on a fait le tour des deux solutions, comment on fait pour bien choisir laquelle correspond à notre situation?
Bien, c'est sûr que dans beaucoup de cas, comme je le disais, la proposition de consommateur va être la solution gagnante. 8 dossiers sur 10 aujourd'hui, ce sont des propositions de consommateurs. La faillite, c'est vraiment plus une solution automatique comme c'était il y a peut-être 20 ans. On y va quand des dettes sont vraiment très élevées, qu'on a des... que c'est difficile, qu'on n'est pas admissible à une proposition de consommateur, qu'on a peu de marge de manœuvre, qu'on a vraiment eu une baisse drastique dans les revenus. Là, parfois, la faillite va être inévitable. Mais habituellement, on réussit presque toujours à présenter une proposition au créancier qui va être plus acceptable.
Donc, on choisit pas ça tout seul dans notre salon, là?
Non, c'est sûr que ça prend un diagnostic avec le syndic. On est le seul professionnel qui peut déposer une proposition de consommateur ou une faillite au Canada.
Puis pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui seraient dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire?
Bien, qu'il y a des solutions. Faut pas attendre que la situation dégénère trop. Une première consultation, c'est gratuit, c'est confidentiel. C'est sans engagement et surtout, on n'a pas de jugement. On est habitué de rencontrer tout le monde puis on réussit à trouver des solutions. Malheureusement, les gens vont souvent attendre trop longtemps. Ils vont attendre d'être brûlés, affectés, d'avoir des... Souvent, la santé va en avoir pris un coup. Fait que venez nous voir. C'est pas que c'est facile, mais ça va vous libérer. Ça va vous permettre d'envisager le futur avec beaucoup plus de facilité.
Ben, merci beaucoup, Marc-André, pour tous ces éclairages-là aujourd'hui.
Merci, Valérie.